Moi, j'étais un peu gênée parce que j'ai le sentiment qu'on focalise beaucoup sur les élites, ultra mobiles, qui ont toutes les possibilités de choix, etc., etc. Et qu'on passe sous silence le fait qu'on est sur des sociétés fracturées et dans lesquelles la fracture peut finir par faire exploser le système.
Ouais.
Et vous avez souligné le fait que le consentement à l'impôt décroît. On peut aussi constater qu'avec la crise de 2008, on a commencé à démanteler non pas la dépense publique, mais l'action de la dépense publique pour limiter les inégalités, pour rendre les inégalités moins insupportables.
Non, pas en France. On a réduit les inégalités en France.
On reverse plus sur du... On s'est beaucoup endetté, on rembourse beaucoup plus de dettes. Et donc, on a moins de capacité de manœuvre d'action. Donc, c'était pour ça. Avec le même argent. Et donc, et pour moi, en même temps qu'on a fait ça, comme par hasard, les populismes et autres mouvements compliqués, nationalistes et de rejet de l'autre, se sont cristallisés. Donc, c'est pour ça que je suis un peu...
C'est fait exactement exprès pour faire ça, c'est-à-dire...
Je suis un peu gênée par la démonstration, ouais. Et je suis d'autant plus gênée que les objets politiques qui étaient fédérateurs en matière de réduction des inégalités, c'était le fait qu'on avait, qui votaient pareil, en gros, des gens de toutes les classes sociales. Et maintenant, on a plutôt des classes sociales qui votent plus, ou quand elles votent, elles votent sur la fermeture, et les élites qui se répartissent à peu près à égalité entre les votes blancs et les votes noirs.
Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question, et ça mériterait qu'on... Donc, évidemment, c'est là que je veux en venir. Hein, c'est dans ce sens-là que je veux aller. Moi, ce que je vous expliquais, c'est pas ce qui est bien ou pas bien. J'essaie de vous expliquer les logiques des transformations. Et du coup, on va reparler de votre question. Vous allez voir, ça va arriver dans le débat aujourd'hui et demain. Donc c'est pour ça que je l'ai un peu laissé. Et c'est là où je veux en venir. Hein. On parle de démocratie, demain plus important. J'ai fait exprès de forcer le trait. Si je fais cet exposé en 74, je vous aurais expliqué que le moteur du changement social, c'était les classes moyennes. On a eu une période historique où l'innovation, les transformations, vivre en couple sans avoir d'enfants, les nouveaux modes de vie, les nouvelles consommations, c'était les classes moyennes. Donc, au sommet de la période de l'État-nation, jusqu'aux années 70, le moteur des transformations, c'était les classes moyennes. Là, vous m'auriez dit, oui, mais on ne m'avait pas parlé des classes ouvrières et des élites. Donc, ce que j'essaie de mettre en évidence, c'est, dans la période qui vient de se passer, le moteur des transformations, pour moi, c'est les élites. D'accord ? On a continué à penser que c'était les classes moyennes, et ce n'est pas les classes moyennes qui ont inventé ces nouveaux modes de vie, qui ont changé de paramètres, qui ont influencé les politiques. On est dans une période où, pour les raisons que j'essaie d'expliquer, c'est les élites les plus qualifiées, hein, je suis au 4 sub, je ne suis pas sur les 20%, hein, sur les plus 20-25%, c'est ces groupes-là qui sont le principal moteur du changement social. D'accord ? C'est pour ça. Et je ne dis pas que c'est bien, ce n'est pas ma question, c'est il faut bien prendre conscience que c'est là que ça se passe. Et que politiquement, c'est ces gens-là qui ont le mieux influencé l'évolution des politiques publiques. C'est pas par hasard si l'impôt sur le revenu a baissé de 10%. C'est la première chose. La deuxième chose, et c'est un peu pour ce qu'on va dire demain, mais c'est pas grave, on va y aller, c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et on ne sait pas ce qui se passe après. Or, ce qu'on sait, c'est que historiquement, les transformations de l'État, c'est pas des choix d'élite. Les transformations de l'État, c'est souvent des mécanismes de compensation à cause d'inégalités trop grandes. Et donc de mobilisation. Mais je veux vraiment rester là-dessus parce qu'on me dit toujours que les mouvements sociaux ont joué un rôle super important. C'est un point caricatural. Sur les 40 ans qui viennent de se passer, les mouvements sociaux ont joué un rôle extrêmement faible dans l'explication de ces transformations. C'est pas bien ou pas bien, c'est ça qu'on peut montrer. Donc, et j'ai voulu durcir un peu ça. D'accord ? Du coup, la question c'est et maintenant ? Et donc, si on a plus d'inégalités, ce qui n'est pas tout à fait vrai pour la France, il y a plutôt eu une réduction des inégalités en termes de revenus. C'est une des rares choses qui s'est passée sous le quinquennat Hollande. Non, ça se mesure très clairement. Mais en revanche, ça s'est accru encore sur le patrimoine. Et c'est ça qu'il faut regarder, évidemment. Donc, et dans pas mal de pays, ça s'est augmenté fortement, évidemment. Donc, on a ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres types d'inégalités qui commencent à se cumuler, y compris territoriales, d'accès à la santé, d'accès à l'école, tout un ensemble de choses. Donc, on est en train de mesurer ça précisément. C'est soit gelé, soit ça augmente. Donc, on peut très bien imaginer qu'on ait des mobilisations qui vont faire bouger les choses. Et d'une certaine manière, les populismes, c'est ça aussi. Donc, vous voyez, moi, j'ai écrit sur, justement, le déclin de l'énergie unificatrice de l'État comme explication pour la montée des populismes. Parce que on sait très bien, par exemple, quand on fait des enquêtes dans plein d'endroits, quand on regarde objectivement, les conditions de vie matérielles ne sont pas forcément dégradées pour plein de gens. Sauf qu'ils ont raison de dire que leurs enfants ont moins de chances d'être en mobilité sociale, qu'ils savent bien que leur hôpital est moins bien que l'hôpital de la ville à 100 km. Tout ça, ça se mesure beaucoup mieux. Donc, ce qui est intéressant, c'est de prendre ça au sérieux, de se dire, ces histoires de gilets jaunes, pour prendre cet exemple-là, c'est un exemple parmi plein d'autres, et c'est pas par hasard si on voit des mouvements plus ou moins du même type qui se développent partout en Europe. Donc, cette montée en puissance qu'on appelle trop largement les populismes, ça renvoie bien à des mécanismes puissants de certains qui gagnent ou qui perdent dans ces évolutions. La question, c'est est-ce qu'ils vont ensuite se mobiliser pour produire des transformations ou pas ? Alors, la version dure, c'est la version révolution, la version soft, c'est des versions social-démocrates. Ça peut être des écolos, ça peut être des choses qui vont dans ce sens-là et qui vont durcir. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les pays européens, on est en train de jouer sur plusieurs choses. Il y en a qui tentent la version alternative écologiste, la maire de Barcelone, la maire de Madrid, jusqu'à présent. Il y a des versions qui sont dans ce sens-là. Il y en a qui vont plutôt du côté populiste très très fort. Trump, Bolsonaro au Brésil, on a des leaders politiques. On doit s'arrêter pour manger dans une seconde. On voit bien qu'on n'a pas encore de modèle politique qui correspond bien à tout ça. Néanmoins, je me permets d'insister sur le fait que, dans ce que je viens de raconter, il y a un groupe qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages pour expliquer les transformations et imposer leurs conditions aux autres. Vous voyez, c'est ça que je voulais mettre en évidence. Mais du coup, il faut vraiment réfléchir sur ce que dit politiquement et comment on gouverne et ce qu'on peut faire avec tout ça. Mais c'est ça qui s'est passé depuis une quarantaine d'années. Ce qui va se passer demain, j'en sais rien. On voit bien qu'il y a des contre-mouvements qui se passent. On revoit plein d'alternatives qui sont en train de se développer. Dans la nouvelle génération, il y a des jeunes qui ne veulent pas jouer ce jeu-là, qui vont faire autre chose. On voit bien qu'il y a tout un mouvement de localisme, de nouveau municipalisme qui est en train d'inventer plein de choses. Peut-être que ça va produire des effets, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça travaille politiquement. Donc moi, je vous dis ce qui s'est passé pour l'instant, les logiques qui peuvent aller dans ce sens-là. Et bien, je vous dis aussi qu'il y a, vous voyez, c'est un peu mes punks, quoi. Je vous raconte les 70, je dirais, c'est la fin des villes. Et moi, je pense de plus en plus qu'à 30 ou 40 ans, on voit des évolutions qui vont remettre ça en cause. Par exemple, le prix du logement ou la pollution. Vous savez, tout ça, c'est pas du... Imaginez que demain, on ait une nouvelle série d'attaques terroristes à Paris. La montée de la Seine un peu sérieuse, la grande rue centenale qui monte un peu haut. Et la même année, on nous fait une crise de pollution de l'air absolument massive. Je suis pas sûr qu'il y ait pas beaucoup de gens qui vont partir. Hein. Je suis même assez sûr de l'inverse. Donc, tout ça, c'est des... Voilà. Ce que j'ai essayé de forcer ce matin de trait, c'était de vous montrer des logiques qui ne soient pas que françaises et qui vont dans ce sens-là pour l'instant. Mais ce que ça va produire derrière, ça peut être des contre-réactions plus ou moins violentes. D'accord ? Donc, la logique de ce que je vous raconte, c'est que ce n'est pas impossible qu'on ait un gouvernement professionnel dans 2 ans. Ce serait assez logique par rapport à tout ce qu'on raconte. Ça pourrait être très très bien dans ce sens-là. Donc, c'est dans ce sens-là que je voulais évoquer. L'idée, c'est de développer ça demain après-midi, quand on va parler de participation de démocratie. Hein, mais c'est bien ça. Donc je voulais durcir le trait pour que vraiment, on ne se trompe pas. Il y a trop souvent dans le public, oui, mais quand même, vous exagérez, les moyennes, c'est super important. Oui, c'est important. Et, moi, je viens de Saint-Brieuc, pas de problème, c'est important, Saint-Brieuc. Mais ce qui se passe à Saint-Brieuc s'explique assez peu parce que ce qui s'est passé à Saint-Brieuc. C'est juste pas beaucoup du tout. Et ils ont quand même souffert beaucoup, comme plein de villes moyennes en France. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas le moteur des explications. On ne considère pas que c'est important. Mais nous, notre boulot, c'est quand même de comprendre quelles sont les logiques d'explication et ce sur quoi on peut agir. Donc c'est ça la logique de ce que je vous raconte. Je prends encore 2-3 questions et on arrête. Oui ?
C'est la question de l'augmentation du plan de la richesse des villes. Vous avez des démonstrations très, très brillantes. Non. C'est très intéressant. Mais c'est aussi pour l'augmentation de la vulnérabilité des villes qui est aussi phénoménale. Et la question du contact, combien je comprends bien l'opposition, on va dire les grandes villes, les moyennes, on est en plein dedans, et d'accord. Mais quand l'accentuation des inégalités au sein même de ces métropoles,
exactement,
est à un niveau intolérable, on voit bien les questions climatiques qui font que les villes deviennent invivables, coup, moi, c'est ça qui me préoccupe, c'est l'augmentation de la vulnérabilité au sein même de la plus grande de cette explosion extraordinaire de richesse.
Alors, vous avez raison, mais ça dépend. Je vais commencer à faire les réponses, enfin, je vais commencer à être sérieux dans mes réponses, donc je vais répondre. It depends. Ça dépend de la richesse de ces villes et leur niveau d'investissement. C'est-à-dire que les Chinois, c'est pas impossible qu'ils arrivent à faire une ville très vivable avec 100 millions. Parce que le niveau d'investissement va être tellement massif que ça va peut-être rendre la ville vivable. Vous voyez, indépendamment de la taille, il n'y a qu'un investissement fait pour rendre les conditions de vie possibles ou pas. Donc le problème, c'est que les pires métropoles, c'est là où vous avez une très 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 forte population, d'énormes inégalités, et pas de services, et pas d'eau, et pas d'école, et pas de transport. Et là, ça devient totalement invivable. Vous voyez ? Ou pas de violence qui est régulée. Mais il y a des grandes villes, quelle que soit la taille, où le jeu entre investissement, dans mon langage, je veux dire capacité de gouvernance, et donc de résolution de conflits, peut les rendre extrêmement vivables. Donc là, c'est très très variable. Tokyo, c'est un remarquable exemple en termes d'efficacité collective. Même si ça commence à poser problème, mais c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils arrivent à faire en termes de vie collective. Vous prenez la même taille de ville et vous la mettez je sais pas où, ça va pas produire les mêmes effets. Ça va pas produire les mêmes effets. Et on voit dans un certain nombre de pays où les choses sont vraiment de plus en plus difficiles pour toutes ces raisons-là. Donc il y a les effets structurels, si j'ose dire, et puis après il y a les effets de quelle capacité d'action collective pour résoudre tout un ensemble de problèmes. Et là, vous avez raison, c'est qu'il y a des problèmes qui deviennent extrêmement difficiles à régler. Et alors, il y a des villes aussi qui continuent à jouer leur rôle d'escalateur social, où il y a vraiment des groupes qui arrivent à avoir de la progression sur une deux générations très fortement. Mais pas toutes. On a aussi des villes où les gens qui viennent des ghettos ou des favelas, ils vont rester dans les favelas, ils ne vont jamais monter en puissance. Donc, ils développent plutôt des activités illégales dans un ensemble de domaines. Ça devient des villes totalement invivables. Donc, en fait, les deux sont vrais. Donc, ça permet de voir la différenciation. Et du coup, pour moi, ce qui est important, c'est que ça met en évidence que la capacité politique, les formes de gouvernance, la capacité à exercer les formes de régulation, à organiser l'action collective, ça devient de plus en plus décisif pour expliquer les transformations de ces différentes villes et leur capacité à évoluer dans la durée. Donc, et puis, fais attention, parce que invivable, il y a plein de choses qui sont invivables pour différentes personnes. Quoi. Vous voyez, c'est... Voilà, votre tolérance est très différente. Et puis, il y a des gens pour qui c'est pas un problème d'avoir beaucoup de densité, ils trouvent ça plutôt bien. Et quand il y a trois brins d'herbe, ils stressent. D'autres, c'est l'inverse. Donc, faut faire attention, ça dépend vraiment des gens et des groupes, c'est tout ça. On fait une dernière question et puis on arrête.
Ouais, la dernière, parce que sinon, on va.
Ouais.
Vous avez vécu la situation aujourd'hui. Il y a trois thématiques sur lesquelles il me semble que l'État reste dans le monde entier le garant des solutions. Il y a la santé. Aujourd'hui, sur coronavirus, soit Trump aux États-Unis, les pays centralisateurs, la banque, la Chine, c'est l'État central qui prend les mesures, c'est pas les maires. Alors, on aurait pu imaginer. Le deuxième, c'est les migrations, ou que ce soit des petites villes ou des grandes villes comme Paris, ça reste des entités en France qui continuent à se tourner vers l'État quand c'est la compétence pour dire il y a un sujet de migration, tout le monde fait, et le climat, bien sûr. Là aussi, l'État reste celui qui a la légitimité pour imposer des choses que, là encore, on voit que les collectivités.
Je peux vous contredire, juste comme ça, trois phrases, vous savez. Un, c'est quoi le premier déjà, c'était la santé. Oui, mais. Oui, mais, en cas de crise, vous avez raison, sauf qu'aujourd'hui, l'augmentation de la santé de la population va dépendre de la prévention et moins. Autrement dit, aujourd'hui, c'est les métropoles qui mettent en première page, en première ligne, pour agir sur les politiques de santé. Si vos enfants cherchent du boulot, santé et territoire, c'est l'avenir. Donc ce sera de moins en moins vrai, et c'est déjà de moins en moins vrai. Migration, pas tellement, pour deux raisons. Un, les règles sont très fortement des règles européennes. Et deux, l'intégration des immigrés dépend de plus en plus de politiques territoriales. Et trois, ce changement climatique, on en reparlera demain matin.